Europe Soir Weekend.
Jeanne Baron.
Est-ce que 19h à suivre sur Europe 1, que fait l'État français? C'est ce que se demande le père de Sébastien Raoult, qui est incarcéré au Maroc depuis quelques mois maintenant. Il risque 116 ans de prison pour cybercriminalité. On en parle tout de suite après le journal. 19h sur Europe 1. Le journal de François-Xavier Lambert, bonsoir.
Bonsoir Jeanne, bonsoir à toutes et à tous.
À la une ce soir, la bataille contre les incendies loin d'être gagnée.
C'est notamment le cas en Gironde où les orages prévus ce soir pourraient raviver le feu à Landiras. La vigilance est aussi forte dans les autres régions où la plupart des brasiers sont pour l'instant maîtrisés. Point complet dans un instant. Dans ce journal également, l'inquiétude au lendemain de l'agression de Salman Rushdie. L'écrivain est placé en coma artificiel après avoir été attaqué au couteau. Son agresseur est entendu par les policiers. Et puis les sports. Le français Johan Dooij-Brouard est devenu champion d'Europe de natation sur 200 mètres d'eau. En Ligue 1, Monaco et Rennes se sont neutralisés un but partout.
Un œil sur la météo avec vous, Anthony Cazemarais.
Et les orages arrivent donc par le sud-ouest ce soir. Ils concerneront quasiment toute la France demain, sauf les Hauts-de-France, le Grand Est, la Côte d'Azur et la Corse. Et les températures vont enfin perdre quasiment 5 à 10 degrés sur une très large partie du pays. Météo complète à la fin du journal.
Europe 1. Vous venez de l'entendre, les orages sont donc attendus ce soir en France, un pari à quitte ou double pour les Français.
Et oui, pompiers. Si la pluie peut évidemment faciliter le travail des soldats du feu, cela n'est pas le cas des fortes rafales de vent et de la foudre qui attiseraient de nouveaux foyers. La situation est particulièrement délicate à Landiras, en Gironde, où 7400 hectares ont brûlé en deux jours. Bonsoir Chloé Lagadou.
Bonsoir François-Xavier, bonsoir à tous.
L'incendie ne progresse plus, mais ce soir, les prévisions météo inquiètent les autorités.
Oui, effectivement, des orages sont attendus en début de soirée aux alentours de 21h. Ici à Austins, on sent déjà le vent qui commence à se lever. De leur côté, les pompiers espéraient bien évidemment un retour de la pluie. Mais problème ce soir, ce sont des orages secs qui sont annoncés. La pluie sera bien là, mais à cause des températures élevées, elle n'aura pas le temps d'atteindre le sol. C'est le scénario que redoutaient particulièrement les pompiers aujourd'hui. Des conditions vraiment défavorables pour les secours, explique Marc Vermelaine, chef des pompiers de Gironde.
En fait, c'est la foudre qui va tomber dans le massif et qui en fait va venir chauffer la tourbe et donc faire un point chaud qui, en fonction de l'état de la tourbe et du vent, va soit éclore immédiatement ou va couver pendant 12 à 24 heures. Il y a également, parce que ça ne suffisait pas, des vents en rafale qui sont annoncés, des rafales de l'ordre de 50 km/h.
Alors ce soir, 1000 pompiers, aussi bien français qu'européens, seront sur le terrain. L'objectif est clair, anticiper des potentiels départs de feu et bien sûr les éteindre le plus vite possible.
Merci beaucoup Chloé Lagadou en Gironde pour Europe 1. Et puis ce soir, les incendies sont globalement maîtrisés dans l'ensemble des régions. En Bretagne, les feux ne progressent plus dans la forêt de Brocéliande, annonce la préfecture du Morbihan dans le Jura. Et en Ardèche, les incendies sont aussi fixés par les pompiers.
Donc face aux incendies, mais aussi sur la route, nouveau week-end particulièrement compliqué sur les grands axes.
917 km de bouchons recensés à la mi-journée sur tout le territoire par Bison Futé. La journée était classée rouge dans les deux sens au niveau national. C'était noir près de l'arc méditerranéen. Ce soir, la situation revient peu à peu à la normale sur l'ensemble du réseau.
Aux États-Unis, l'écrivain Salman Rushdie est toujours dans un état critique.
L'auteur est placé en coma artificiel après l'agression dont il a été victime hier, alors qu'il donnait une conférence dans l'état de New York. Son agresseur a été arrêté. Il est entendu par les policiers. Ce soir, les dernières nouvelles en provenance de l'hôpital ne sont pas très rassurantes à Viva Fried.
Oui, selon l'agent de Salman Rushdie, les nouvelles ne sont pas bonnes. L'écrivain est toujours hospitalisé sous assistance respiratoire. Il a été poignardé au foie, les nerfs d'un de ses bras ont été sectionnés et il risque de perdre un œil. Des blessures très graves qui témoignent de la violence de l'attaque. Les témoins présents au centre culturel de Chautauqua, dans l'état de New York, parlent de 10 à 15 coups de couteau portés à Salman Rushdie par son agresseur. Un agresseur que la police a identifié comme étant Adi Matar, un Américain de 24 ans d'origine libanaise, mis en examen pour tentative de meurtre. Alors si la police se refuse pour l'instant à préciser le motif de l'attaque, une première analyse des réseaux sociaux du suspect laisse apparaître des éléments. Adi Matar serait un admirateur du régime iranien et de ses gardiens de la Révolution. Sur son profil, une photo de l'ayatollah Khomeini qui, en 1989, avait en personne mis à prix la tête de Salman Rushdie en lançant une fatwa contre l'écrivain. Des journaux iraniens se sont d'ailleurs empressés de féliciter l'agresseur, une réaction à contre-courant de l'émotion provoquée dans le monde par cette attaque.
Aviv Afrid depuis les États-Unis pour Europe 1.
Dans l'actualité internationale, toujours, la centrale nucléaire de Zaporijjia en Ukraine aurait de nouveau été ciblée par des tirs.
Moscou et Kiev s'accusent à nouveau mutuellement d'avoir visé ce site stratégique nucléaire le plus grand d'Europe. Des accusations qu'il est très difficile de confirmer de manière indépendante. Les autorités ukrainiennes, soutenues par les Occidentaux, appellent à la démilitarisation de la zone ainsi qu'au retrait des troupes russes qui occupent ce site depuis mars dernier.
En Afghanistan, cela fait quasiment un an, jour pour jour, que les talibans sont revenus au pouvoir et le groupe islamiste ne semble prêt à aucune concession.
Et surtout pas à laisser une place à la liberté d'expression. Ce matin, ils ont tiré en l'air pour disperser une manifestation de femmes dans les rues de Kaboul. Ces dernières réclamaient le droit au travail et à l'éducation, car depuis un an, les talibans ont progressivement réduit les droits des Afghanes. Pour le grand reporter spécialiste de l'Afghanistan, Régis Le Sommier, le groupe islamiste n'a tenu aucune de ses promesses d'ouverture.
Ce qu'on craignait s'est produit, c'est-à-dire que les talibans n'ont pas tellement changé philosophiquement et religieusement et ont décrété le port intégral de la burqa pour les femmes en public, la séparation stricte des étudiants hommes et femmes, et puis une bonne partie des écolières ne peuvent pas retourner à l'école. On reste dans une situation très critique avec toujours ces risques de famine, avec cette dépendance qu'ont les talibans sur les voisins et en particulier la Chine et le Pakistan, puisque c'est de ces deux pays que vient une grosse partie des matières premières qui sont consommées en Afghanistan. En tout état de cause, je ne crois pas, moi personnellement, que les talibans aient autre chose en tête que l'idée d'imposer la charia. Alors, avec plus ou moins de rigueur, mais ça reste la base de leur action politique.
Le grand reporter spécialiste de l'Afghanistan, Régis Le Sommier, il était interrogé par Louise Douillet. Toujours à l'étranger, au Kenya, le verdict de la présidentielle se fait attendre. Selon des résultats partiels, Raila Odinga recueillerait pour l'instant plus de 52% des voix, contre 46% pour William Ruto, le vice-président sortant. Le vainqueur du scrutin succédera à Uhuru Kenyatta, qui ne peut pas briguer un troisième mandat.
On revient en France dans ce journal avec un peu de légèreté. On vous parle de vos vacances et notamment du parc national le plus fréquenté en été, les Calanques de Marseille.
3 millions de touristes sont attendus dans ces criques réputées à l'eau cristalline, un environnement sensible que les autorités cherchent donc à préserver malgré l'affluence. Nina Pavant.
Monsieur, bonjour. Je vais prendre votre permis bateau, s'il vous plaît.
Chaque jour, des milliers de vacanciers louent des bateaux pour aller passer la journée dans les Calanques de Marseille. Kaki est le gérant de l'entreprise Low Cost Marine sur le Vieux-Port et il tient toujours le même discours.
Il faut qu'on s'amuse, qu'on prenne du plaisir et qu'on protège aussi nos calanques. D'accord ?
Désormais, les locataires de bateaux reçoivent une carte et un kit d'informations sur les espèces protégées et les calanques où il est interdit de jeter l'ancre. Un bon rappel selon Kevin et ses deux matelots.
C'est vrai que j'ai déjà loué des bateaux auparavant et on n'a jamais eu autant d'explications et c'est vrai que je trouve ça vraiment super.
Le message passe différemment selon les générations. Julien Tavernier, responsable des activités nautiques.
Le public qu'on a le plus de mal à sensibiliser, c'est le public jeune, urbain, qui va venir profiter de l'espace d'une manière un peu plus récréative. Et donc comment on parle à ces personnes-là. On utilise beaucoup Instagram, donc de belles photos qui donnent envie de regarder le document et de faire passer les messages en deuxième plan.
Une sensibilisation indispensable car les calanques sont victimes de leur succès et souffrent de la surfréquentation sur terre, mais aussi en mer. Marseille, Nina Pavant, Europe 1.
Allez, on passe au sport.
Tous les sports et sur Europe 1.
Les nageurs français ont brillé au championnat d'Europe.
Johan Doy-Brouard s'est imposé sur le 200 mètres d'eau, Colin Abgral.
Oui, absolument. Premier grand titre pour le nageur de 21 ans, originaire d'Annecy. Une histoire assez folle, hein, car la veille, en demi-finale, il a cassé son cale-pied au moment de prendre le départ et a dû disputer sa demi-finale seul dans le bassin un peu plus tard. Aujourd'hui, pas de problème technique et il est donc médaillé d'or sur le 200 mètres d'eau. Je vous propose d'écouter sa réaction chez nos confrères de France Télévisions.
Je me sentais fort, mais voilà, j'étais fatigué après hier soir. Ça m'a pris beaucoup d'émotions, mais j'ai viré dans 150, j'ai vu que j'étais devant tout le monde, enfin, avec tout le monde, et j'ai vu qu'il m'en restait, et je me suis dit, il n'y a pas moyen, elle est pour moi celle-là.
Hendoy Brouard qui sera également sur le 100 mètres d'eau à partir du 17 août. Pour les Français, ça s'est enchaîné juste derrière. Hein, après l'or, l'argent pour Marie Vatel. Elle s'est classée deuxième sur le 50 mètres papillon avec tout de même un record personnel à la clé. Elle défendra son titre européen gagné en 2020 sur le 100 mètres papillon à partir de demain. Tout n'était pas parfait pour nos Français. Désillusion pour Maxime Grousset sur la finale du 100 mètres nage libre. Il échoue au pied du podium. Une course qui a vu la victoire époustouflante de la pépite roumaine David Popovici, seulement 17 ans. Et il est allé chercher le record du monde de la distance reine en 46 secondes. Déjà 6 médailles pour la France, donc la première en or aujourd'hui. Et les championnats d'Europe sont encore longs. Nul doute que nos nouvelles générations, notre nouvelle génération devra continuer à briller.
Merci beaucoup Colin Abgral du service des sports d'Europe 1.
Il y a aussi du football avec la deuxième journée de la Ligue 1.
Et Monaco et Rennes se sont quittés sur un match nul. Un but partout, Frédéric Elion.
Effectivement, pas de vainqueur dans ce duel de revanchards, on le disait, puisque les Monégasques s'étaient inclinés il y a 4 jours en Ligue des Champions à Eindhoven. Rennes s'était manqué en ouverture du championnat avec la défaite à Lorient. Et donc ce match nul, un but partout, finalement, n'arrange personne. Ce sont les Rennais qui vont avoir le plus de regrets. Ils ont évolué pendant près de 80 minutes à 11 contre 10 suite à l'expulsion côté monégasque de Fofana dès la 15e minute, un carton rouge direct sur une semelle sur Martin Terrier. Les Rennais ont profité de cet avantage pour ouvrir le score à la 59e suite à Gaëtan Laborde qui a profité d'un cafouillage dans la surface de réparation monégasque pour marquer. Et puis ils ont égalisé les monégasques, une incroyable erreur du portier remplaçant Rennais, Alendar, le Turc qui a remplacé Mandanda à la mi-temps blessé, qui s'est manqué tout simplement dans sa propre surface de réparation. Il s'est fait chipper le ballon dans les pieds par Mbolo qui a marqué dans le but vide. Un partout donc, score final. Un résultat qui n'arrange aucune des deux équipes.
Merci beaucoup Frédéric Elion en direct du stade Louis II de Monaco. La Ligue 1 continue ce soir, PSG Montpellier à 21h, à suivre évidemment dans Europe 1 Sport. Bonsoir Virginie Fulpin.
Bonsoir.
Encore un programme j'imagine très alléchant avec vous-même et vos consultants.
C'est-à-dire que c'est la rentrée, en tout cas celle de Kylian Mbappé. L'attaquant du Paris Saint-Germain va jouer son premier match de Ligue 1 de la saison face à Montpellier. Donc ce soir, je peux vous dire qu'on va l'observer de près dans Europe 1 Sport. Depuis sa prolongation de contrat, c'est quasiment lui le patron de son club. Ça veut dire obligation de résultat pour Mbappé. On va en discuter avec nos experts. Ça fait 5 ans pile aussi que Neymar a joué son premier match pour le PSG. De quoi parler bilan et perspective. En tout cas, la soirée ne s'annonce pas simple pour Montpellier en délicatesse avec sa défense depuis de longs mois. Comment être autre chose qu'un faire-valoir du PSG? Surtout que ça se passe au Parc des Princes, un royaume à reconquérir. Conquérir pour les Parisiens. Les supporters étaient un peu grognons la saison passée entre sifflets et grève des encouragements. Il y a fort à parier que les esprits se soient calmés pendant l'été. En tout cas, nos envoyés spéciaux nous emmèneront aussi en tribune.
Merci beaucoup Virginie Fulpin. On vous retrouve donc dans une heure avec toute votre équipe dans Europe 1 Sport. Et puis toujours en sport, on termine avec d'autres bonnes nouvelles pour les Français au championnat d'Europe de triathlon à Munich. Léo Bergère a terminé premier, Pierre Lecor deuxième et Dorian Coninx troisième. C'est donc un triplé.
Autre bonne nouvelle, prochain journal avec vous, François-Xavier Lambert, c'est à 20h. La météo, Anthony Kazmarek.
Les orages arrivent donc par le sud-ouest ce soir. Ils concerneront une bonne partie de la nuit la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, jusqu'au Limousin. Et évidemment, on espère sous ces orages surtout des pluies, notamment pour la Gironde et pour les Landes. Au réveil, on va retrouver ces orages demain matin de la Bretagne jusqu'au Val-de-Loire, du sud de la Bourgogne jusque dans la vallée du Rhône, jusqu'aux Cévennes et jusqu'au Languedoc, jusque d'ailleurs la région de Montpellier. Et prudence, évidemment, sous ces orages, parfois de forts cumuls de pluie, notamment entre la Bretagne et le Pays Nantais, mais surtout de la vallée du Rhône aux Cévennes. On va donc surveiller ces forts cumuls de précipitations. Et puis dans l'après-midi, toujours des orages à l'est du massif central, dans la vallée du Rhône et jusqu'aux Alpes. Et puis ailleurs, alternance de nuages, d'éclaircies et d'averses. Averses qui pourraient sans doute concerner l'Île-de-France seulement dans la soirée de demain. Et puis des éclaircies vont déjà revenir par la côte aquitaine. Mais à l'écart de ce temps perturbé encore, la côte d'Azur, la Corse avec du soleil et un ciel qui sera toujours ensoleillé mais qui va se voiler des Hauts-de-France au Grand Est. C'est d'ailleurs là qu'il fera encore le plus chaud demain avec 34 degrés à Lille, 33 à Strasbourg, 32 à Nancy. Mais partout ailleurs, on va perdre 5 à 10 degrés et ça nous fera vraiment du bien. 29 degrés à Paris et à Toulouse, 28 à Grenoble, 26 à Lyon, à Clermont-Ferrand et à Tarbes, 25 degrés à Saint-Étienne et à Nevers, 24 degrés à Nantes, c'est 13 degrés de moins qu'aujourd'hui, et un petit mais agréable 21 degrés, ce sera pour Lorient.
Merci beaucoup Anthony Kazmarek, allez rester bien avec nous à suivre. Sur Europe 1, cette question, que fait l'État français? En tout cas, c'est la question que se pose le père de Sébastien Raoult. Sébastien Raoult, ce Français incarcéré depuis 2 mois au Maroc, sur demande des autorités américaines dans une affaire de cyberpiraterie. Ce jeune homme risque 116 ans de prison. Son père, Paul Raoult sera mon invité dans un instant. Alors restez bien avec nous. Vous êtes sur Europe 1. À tout de suite.